Bonjour, les chineurs ont rendez-vous au Landron ce week-end. La brocante s'est ouverte ce matin. Zoom sur le secteur du jouet ancien. La navigation n'a toujours pas repris sur le lac des Brenets. Les bateaux sont à l'arrêt depuis le 17 août et les pluies tombées ces derniers jours ne suffisent pas à remplir le plan d'eau. Seules de petites boucles à proximité des chutes du Doubs restent possibles. Choc au sommet pour Neuchâtel Xamax, 4e de Challenge League de football. Le club rouge et noir se déplace ce soir sur la pelouse du 3e, Ville. Et pour cette rencontre, la troupe d'Ouli Forte pourra compter sur une nouvelle recrue offensive, Salim Benseguir. Le soleil devrait prendre le dessus sur les nuages en ce début d'après-midi, mais quelques averses pourraient faire leur retour en soirée. Neuchâtel se prépare un week-end festif. Dès 18h, place à la 96e fête des Vendanges qui devrait attirer environ 300 000 personnes sur 3 jours. La conseillère fédérale Elisabeth Boom-Schneider sera de la partie. Elle assistera au Corso Fleuri le dimanche qui sera composé de 13 chars. L'invité d'honneur cette année, c'est Neuchâtel Xamax. Il y aura environ 300 stands de nourriture et de boissons à disposition des fêtards pour étayer leur faim et leur soif. Et les amateurs de bonnes affaires vont, eux, se retrouver au Landron ce week-end. La brocante se tient dans le village depuis ce matin. C'est l'une des plus vastes du genre en Suisse. Les chineurs étaient déjà aux aguets ce matin lors du déballage et ont notamment pu admirer de nombreux jouets anciens exposés. Cette année, un secteur complet leur est dévolu dans le château du Landron. Et certaines pièces valent le détour, comme l'explique Yves Notaire, organisateur de la bourse aux jouets.
On a vendu un jouet ce matin. C'est un petit rond en tôle avec le premier train, un tout petit jouet en tôle avec le premier train suisse en 1835 qui faisait Baden-Zurich. Et ce petit jouet a été fait en 1935 en parfait état. Et ça, c'est des jouets qui me touchent parce que les lithographies sont magnifiques. C'est vraiment ce qu'on appelle du beau jouet.
Vous remarquez toujours de l'intérêt de la part des gens ou le marché devient difficile?
Alors, le marché devient difficile. Quand vous avez des beaux jouets, c'est toujours bien vendable. Maintenant, il faut avoir des jouets à tous les prix, depuis 1 franc à, il n'y a pas de limite, mais la population elle est quand même vieillissante.
Quel est le type de clientèle qui s'intéresse à ce genre de fourniture? Est-ce que ce sont des enfants, ce sont des collectionneurs, ce sont des nostalgiques?
Alors, il y a des nostalgiques, il y a aussi beaucoup de collectionneurs qui cherchent des jouets différents. Ça peut être du train, des vieilles voitures, des voitures qu'ils ont eues, ça peut être tout et n'importe quoi.
Des propos recueillis par Damien Piscopiello, la brocante du Landron se tient donc jusqu'à dimanche. Du nouveau matériel pour améliorer la prise en charge des patients cancéreux à La Chaux-de-Fonds, le réseau hospitalier neuchâtelois s'est doté d'un PET-CT de dernière génération, un appareil qui permet d'améliorer la qualité de l'image tout en diminuant le temps d'examen et la dose injectée selon le RHNE. Ce nouveau matériel a été installé dans des locaux plus grands et plus proches qu'avant de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Le lac des Brenets ressemble plus à un terrain de golf qu'à un plan d'eau navigable. Les trois sociétés de navigation qui opèrent des deux côtés de la frontière franco-suisse rongent leurs freins en attendant la pluie. Faute d'eau en suffisance, les bateaux sont à quai depuis le 17 août. En 2022, ils avaient pu reprendre le large dès le début du mois de septembre. Cette année, les équipages gardent l'œil rivé sur le radar météo. La sécheresse de la rivière, ce n'est pas une nouveauté. Des études datant du début du XXe siècle ont été retrouvées, assure Yvan Durig, le directeur de la compagnie de navigation sur le lac des Brenets. Mais depuis 5 ans, la situation semble s'aggraver.
Oui, c'est du jamais vu, c'est cette trêve qui se prolonge comme ça. L'année passée, on a été impacté 2 mois, de 14 juillet au 6 ou 7 septembre. Mais là, l'eau après est revenue et puis on a pu terminer la saison sans trop d'encombre.
Mais le constat, c'est que la situation s'aggrave d'année en année?
Actuellement, on dirait oui, puisque c'est depuis 2018 qu'on a enregistré les sécheresses, hein, 2018, 2020, 2022 et cette année, donc. Ça fait la 4e sécheresse consécutive.
C'est le lac des Brenets, hein, surtout, qui est impacté. Du côté du Saut du Doubs, le secteur reste encore navigable?
Il nous reste un petit peu d'eau au Saut du Doubs, étant donné que la profondeur est un petit peu plus importante. Et là, on peut encore faire quelques tours de bateau d'une trentaine de minutes. Actuellement, on a atteint la côte d'environ 10 mètres en dessous du niveau normal. Et le Doubs baisse à raison de 18 cm par jour. Alors avec les pluies, il fait un petit peu le yo-yo, il remonte de 10 cm, il rebaisse de 15 cm, il remonte de 20, mais il est toujours à cette cote de moins 10 mètres actuellement.
Un sujet de Claire Viget, le directeur de la compagnie de navigation sur le lac des Brenets, nous a confié avoir enregistré 70% d'annulations cette saison. Des études sont actuellement menées des deux côtés de la frontière pour trouver une solution face à ce lac qui se vide régulièrement. Des premiers résultats sont attendus pour la fin de ce mois. La Suisse devra réduire sa consommation de gaz. Cet hiver, le Conseil fédéral a fixé aujourd'hui un objectif d'économie de 15% pour la période allant d'octobre à mars. L'objectif est de réduire le risque de rupture d'approvisionnement en énergie. Les ménages, l'industrie, les services et l'administration publique seront appelés à faire des efforts. Trois quarts de la consommation annuelle de gaz sert à chauffer les bâtiments en hiver. À un mois des élections fédérales, on cerne un peu mieux quelles sont les sommes investies dans la campagne. Partis et candidats doivent pour la première fois faire preuve de transparence. Ils sont tenus de déclarer les budgets de plus de 50 000 francs et les dons de plus de 15 000 francs. Toutes les informations sont publiées sur le site du Contrôle fédéral des finances. Ce sont les candidats du Parti libéral radical qui ont le plus de moyens, avec des dépenses globales de 12 millions de francs. Suivent les candidats de l'Union démocratique du Centre et du Parti socialiste. Le voile est aussi levé sur les principaux donateurs de la campagne. Les précisions de notre correspondante parlementaire Marie Vieumier.
Le don le plus important qui a été annoncé est celui de Carmita Burkhardt. La Neuchâteloise a versé 1 million de francs au vert. Elle est l'héritière de la famille qui a fondé la multinationale industrielle Sika. Vient ensuite Christophe Blocher, l'ancien conseiller fédéral de l'Union démocratique du Centre. Il a donné 550 000 francs à son parti. Et une certaine Fondation pour la politique bourgeoise a aussi versé 500 000 francs à l'UDC. Cette fondation a pour but de soutenir les activités du parti, mais on ignore d'où vient son argent. La création d'une fondation, d'un club ou d'une association semble permettre de contourner l'obligation de déclarer les grands donateurs. La réaction de Pascal Stirniman, directeur du Contrôle fédéral des finances.
Partout où il y a une loi, il y a des possibilités où on peut essayer d'entourer la loi. Mais je dirais avec les structures qu'on a, avec les donations aussi, avec les fondations qui ont créé, on a quand même des règles qui sont très très claires. Si on a une personne à l'origine qui a fait une donation pour une campagne d'élection, la personne, elle doit être publiée dans le registre. Alors là, la loi, elle est claire.
D'après le Contrôle des finances, une entité créée uniquement pour soutenir une campagne devrait donc annoncer ses donateurs. Et une organisation qui soutient un parti devra faire de même dès l'année prochaine avec l'entrée en vigueur de la déclaration des budgets des partis politiques. La campagne électorale de cet automne n'est que le premier pas. Le financement de la vie politique devrait progressivement devenir plus transparent.
Et pour l'instant, seuls les budgets de l'élection au Conseil national ont été rendus publics. Les chiffres de la campagne pour le Conseil des États seront dévoilés en début d'année prochaine. Des vérifications ponctuelles seront effectuées par le Contrôle des finances. Il pourrait être le favori à la succession d'Alain Berset au Conseil fédéral. Le socialiste balois Beat Jans a confirmé sa candidature ce matin à Berne. À 59 ans, il préside le Conseil d'État de Bâle-Ville depuis 2 ans et demi. Il avait siégé durant 10 ans auparavant au Conseil national. Et cela fait 50 ans que la métropole industrielle de Bâle attend de revoir l'un des siens au Conseil fédéral. Le dernier avait été Hans-Peter Tschudi, le père de l'AVS. Beat Jans est issu d'une famille ouvrière. Son accession au Conseil fédéral serait une forme de rêve américain à la sauce suisse.
C'est un peu exagéré parce qu'en Suisse, c'est normal. Mais ma femme, par exemple, elle est américaine. Elle dit « Jacques Chour, c'est incroyable, le système politique que vous avez chez nous, aux États-Unis, c'est terrible, hein? C'est une polarisation. » Et la Suisse, c'est le compromis, c'est les solutions communes. Et c'est exactement ça qui m'intéresse.
Vous avez 59 ans, ce n'est plus de prime jeunesse.
Je suis prêt, je suis fit. Ce matin, j'ai fait du jogging. J'étais nagé dans le Rhin ce matin. Donc, je me sens bien pour ce poste. Et j'ai des filles, presque 16 et 18 ans. Et j'ai quand même accès à la pensée des jeunes personnes.
Des propos recueillis par Serge Jubin et en plus du balois Beat Jans, trois autres candidats socialistes brillent le siège d'Alain Berset au Conseil fédéral. Plusieurs eurodéputés du FN, devenus Rassemblement national, sont dans le viseur de la justice française. Le parquet de Paris a requis un procès à leur encontre. Parmi eux, Marine Le Pen et son père Jean-Marie. 27 personnes liées au parti sont concernées. Ils sont tous soupçonnés d'avoir participé à un système de détournement de fonds publics européens entre 2004 et 2016.
RTN 12h25. Sport.
C'est un gros morceau qui attend Neuchâtel Xamax. Quatrième de Challenge League, le club de football rouge et noir se déplace ce soir sur la pelouse de Ville, qui est troisième. Pour aborder cette rencontre, les Xamaxiens pourront compter sur une nouvelle arme offensive, Salim Benseguir. Cet ailier de 20 ans est arrivé en fin de mercato de l'Olympique de Marseille. Le franco-marocain débarque pour une saison en prêt. Passé par Nice, l'OM et Valenciennes, il explique ce qui l'a poussé à rejoindre Neuchâtel Xamax. Salim Benseguir.
Ça a été une longue réflexion parce que j'ai eu plusieurs propositions durant le mercato, plusieurs choses qui ne se sont pas faites. Et au final, quand j'ai eu l'opportunité de venir ici, j'y ai réfléchi. Je me suis dit peut-être que c'était le bon endroit pour lancer enfin ma carrière et pour avoir plus de temps de jeu et montrer mes qualités. Je pense que c'était le bon club avec le bon coach et le bon endroit pour pouvoir progresser et accumuler les minutes.
Quel type de joueur est Salim Benseguir ?
Je suis un joueur plutôt percutant, vif. Je suis un ailier qui peut jouer aussi milieu offensif. J'ai une bonne frappe de balle et je suis un bon dribbleur et j'aime bien combiner. Je suis un joueur qui aime bien combiner et qui aime bien être décisif pour aider l'équipe.
Qu'est-ce que vous avez aussi pensé de vos coéquipiers, de l'équipe qui est là, avec votre style de jeu aussi, notamment vous dites j'aime bien combiner.
Franchement, agréablement surpris parce qu'il y a de très bons joueurs. Et il y a des joueurs avec qui je m'entends super bien sur le terrain, avec qui on a une facilité, on commence à avoir des automatismes, on commence à se comprendre dans le jeu et avec qui je peux combiner. Et on a une équipe très joueuse, donc ça fait plaisir d'être là.
Des propos recueillis par Damien Piscopiello pour cette rencontre. Le coach Willy Forte pourra également compter sur le buteur Simon Erap qui est de retour de blessure. Il n'a pas encore joué cette saison avec les Rouges et Noirs. Ville Neuchâtel Xamax, c'est une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur RTN ce soir dès 19h15. Et la Chaux-de-Fonds attend Vevey ce soir en première ligue de football. Coup d'envoi à 20h15 au stade de la Charrière. Après avoir été éjecté de la Coupe de Suisse, le FCC tentera de se refaire une santé contre une équipe qui la précède d'un rang au classement. Les Vaudois sont 7e avec un point d'avance sur les Chaux-de-Fonniers, mais aussi avec un match en plus. Julian Nagelsmann a été nommé sélectionneur de l'Allemagne. C'est ce qu'a indiqué la Fédération allemande de football. À 36 ans, il devient le plus jeune entraîneur à occuper ce poste. Julian Nagelsmann succède à Hansi Flick, limogé le 10 septembre après un revers 4-1 à domicile en amical contre le Japon. Et puis la commission de discipline de la Swiss Ice Hockey a tranché. Elle a infligé 3 matchs de suspension à Yves Stoffel. L'attaquant du HC La Chaux-de-Fonds s'est fait l'auteur d'une charge incorrecte contre la bande à l'encontre de Raphaël Kuonen. C'était mardi soir à la 15e minute du match face à Viège. Très bel après-midi.